France Culture. Le Book Club. Dans la bibliothèque de Valérie Zenati. Marie Richeux.
C'est étonnant ce que l'on peut se raconter en arpentant la bibliothèque de quelqu'un. Formidable portrait en creux de celles et ceux qui nous parlent devant leurs livres, les tranches des ouvrages, convoquant soudain des tranches de vie. Ces recueils qu'on a prêtés et jamais revus, qui laissent un vide, ce qu'on nous a offert, ce que l'on garde depuis des années, ceux qui sont là et qui attendent d'être lus. Même une simple pile posée sur la table de chevet ou dans le couloir révèle des traits de notre parcours et de notre rapport aux mots. Aujourd'hui, c'est la traductrice, notamment de l'œuvre d'Aaron Appelfeld, scénariste et autrice, Valérie Zenati, qui nous reçoit si généreusement chez elle. On est juste après son déménagement, une partie des livres est encore à la cave, mais l'essentiel est disposé dans trois endroits de l'appartement. Il sera question de musique, de nuit, d'amitié, de conversation et de ce grand XXe siècle à l'histoire tourmentée.
Voilà,
donc c'est là.
Alors, on est confortablement installé dans un canapé jaune, plutôt bas. Très bas. Bon espace de lecture, potentiellement.
Exactement.
Hein, on est d'accord.
C'est un canapé idéal pour lire.
Ok. Tout commence par un petit questionnaire autour de la lecture.
Allons-y.
C'est un questionnaire avec des questions plutôt fixes pour nous renseigner sur la lectrice que vous êtes, Valérie Zenati, avant d'aller visiter votre bibliothèque. Et c'est un questionnaire qui commence par l'enfance. Est-ce que vous vous souvenez avoir appris à lire ? Est-ce que c'est quelque chose qui a laissé une trace précise dans votre tête ?
C'est assez particulier parce que j'ai été dans une école maternelle juive orthodoxe et la première langue que j'ai apprise à lire n'était pas ma langue maternelle et n'était pas une langue que je comprenais, c'était l'hébreu. Donc j'ai commencé, ça je m'en souviens très bien, que vers 4 ans, j'ai commencé à apprendre l'alphabet hébraïque, j'ai commencé à déchiffrer en hébreu, et donc je déchiffrais une langue que je ne comprenais pas. Et ensuite, je suis restée dans cette école, qui était une école privée hors contrat, et en CP, j'ai été virée de l'école, parce que j'écrivais penchée. C'est toute une histoire. Et j'écrivais penchée parce que je trouvais ça très élégant, très français, très 18e siècle. Et je suis allée donc à l'école publique, pour ma plus grande chance, je pense. Mais je crois aussi que cette année, qui a été très chargée, l'année de mes 6 ans, qui est vraiment, je pense, l'année de l'apprentissage de la lecture pour moi en français, qui a été très chargée en bouleversements, dont celui-ci, fait que je n'ai pas la mémoire du moment où j'ai appris à lire en français.
Mais... Le déchiffrage en hébreu, oui.
Le déchiffrage en hébreu, oui. Mais c'est très étrange parce que quand j'y repense, je me dis que pour moi, l'apprentissage de la lecture a été l'apprentissage de quelque chose que je pouvais dire mais ne pas comprendre.
Incroyable. Et c'est, je trouve, d'autant plus incroyable quand on sait ensuite à la fois tout le travail que vous avez fait du côté de la traduction, on y viendra, et quand on sait par ailleurs tout le travail que vous faites autour... en littérature, des choses ineffables, des paysages muets, de la neige et du silence. Je trouve ça, bon, je ne sais pas s'il faut tout à fait le lier avec ce premier moment d'entrer dans la langue où vous dites quelque chose que vous ne comprenez pas, mais en même temps, c'est la première chose à laquelle je pense en vous écoutant là.
Ça me trouble beaucoup. Oui, ça me trouble vraiment parce que souvent, je dis que j'ai très, très peu de souvenirs qui précèdent la période où j'ai su écrire. Ma mémoire, vraiment ma mémoire vive, commence au moment où j'ai su écrire. Donc à 7 ans, et où j'ai commencé à écrire pour moi. Mes petits carnets. Là, oui, là la mémoire est claire. Elle est plus liée à l'écriture qu'à la lecture. Mais ce constat d'avoir appris tout d'abord une langue qui n'est pas ma langue maternelle, qui n'est pas ma langue de discussion, que je ne comprenais pas, c'est vrai que ça ouvre un champ de réflexion maintenant, surtout avec ce que vous dites.
La deuxième question, c'est est-ce que vous avez vu dans des albums de famille ou dans des photos que vous auriez gardées ou que vos proches auraient gardées une photo où vous tenez un livre à la main ?
On avait peu de photos. Enfin bon, mais je suis née en 1970, donc mes parents avaient un appareil photo. Je pense qu'ils ont dû acheter le premier appareil photo quand j'avais déjà peut-être 10 ans, 10-11 ans. Enfin, on est encore enfant à 10-11 ans. Mais je n'ai pas de photo de moi lisant. J'ai, je crois, une photo de moi lisant ensuite à mon fils chez ma grand-mère. Mais bon, je n'étais plus enfant. Mais sinon, je n'ai pas de photo de moi. En revanche, j'ai une image intérieure très précise de moi, blottie dans le seul fauteuil qu'on avait à la maison, contre ma grande sœur, qui a 3 ans de plus que moi, et qui me lisait des histoires. Ça, ouais. C'est une image intérieure très, très forte. Ouais.
Est-ce que vous avez déjà, Valérie Zenati, élu un livre pour maison? Ici, on a la chance d'être dans une nouvelle maison, en plus, c'est une maison où vous venez juste d'arriver. Est-ce que vous vous êtes à ce point senti chez vous dans un livre que vous vous êtes dit que c'était pour un temps en tout cas une maison?
Alors je crois que une grande partie des livres que j'ai lus ont été des maisons à chaque. C'est-à-dire que pour moi le bonheur de lecture que j'ai ressenti très très jeune était lié à ça. C'était plus une cabane qu'une maison, mais c'était vraiment ce lieu qui n'appartenait qu'à moi, dans lequel je me sentais extrêmement protégée. Et donc, le sentiment de lié à la lecture est lié à celui de la maison, d'une cabane, d'un grenier qu'on n'avait pas. Enfin, je dis qu'on n'avait pas parce que j'ai beaucoup fantasmé quand j'étais enfant sur les gens qui avaient des maisons avec des greniers. Et donc, nous, on n'a jamais de grenier. En revanche, justement, ce sentiment de maison où on peut reprendre des forces, où on est totalement protégé, je l'ai eu plutôt en traduction, à un moment très précis. Bon, même si, encore une fois, tous les livres d'Aaron Appelfeld, précisément, que je traduis, sont des lieux que j'habite totalement. Mais j'ai vraiment élu un livre où il s'est présenté à moi comme un refuge. C'est Les Partisans, que je traduisais au moment des attentats de janvier 2015. J'habitais tout près, à l'époque, de Charlie Hebdo, notamment. Et j'ai connu, comme beaucoup de gens, un moment de très, très grand désespoir. Et j'étais en train de traduire ce livre. Et ce livre, qui est précisément l'histoire de partisans pendant la guerre, qui se retrouvent dans une forêt et qui s'interrogent sur la façon de résister au mal et qui disent que la survie physique n'est pas suffisante et que ce qui importe dans une vie, c'est la survie morale, psychique, intellectuelle. Enfin, intellectuelle, non, c'est pas du tout un terme qu'Aaron Appelfeld aurait employé, mais c'est la survie liée à ce qui fait l'homme comme étant un être de mémoire, comme étant un être de questionnement. Et ils sont là, le soir, ils se retrouvent autour du feu, il y a des communistes, des anarchistes, des religieux, il y a toutes les tendances possibles du judaïsme de l'époque en pleine guerre. Et ce livre, qui est vraiment un livre de résistance, je sais que j'ai la sensation physique, pour répondre à votre question, d'avoir pu avoir de nouveau autour de moi des murs protecteurs.
Est-ce que vous avez rencontré un personnage, Valérie Zenati, qui, le livre fermé, vous manque? Un personnage auquel vous pourriez penser comme un être de votre vie, un être rencontré?
Alors justement, la force des personnages, c'est une fois qu'ils sont entrés en moi, ils ne peuvent absolument pas me manquer. Ils sont là. Et je dis souvent que, paradoxalement, mes personnages, lorsque j'écris, sortent vraiment de moi une fois le livre terminé.
L'inverse.
C'est exactement l'inverse. Lorsque j'écris, les personnages existent d'une manière très très forte, je vis avec eux. Mais lorsque le livre est terminé, je ne sais pas s'il me manque ou pas, mais en tout cas, il n'existe plus vraiment. En revanche, les personnages des livres qui m'accompagnent depuis que je suis enfant, je peux même penser à Joe, des têtes filles du Dr. March, par exemple. Mais Joe est là. Joe, je la vois, elle est là. Il y a des livres que j'ai lus et que je suis incapable de raconter, mais totalement incapable. En revanche, le personnage est là comme une présence...
Justement, est-ce qu'il y a un livre que vous seriez sûr qu'il serait bon d'offrir à votre vous d'il y a 20 ans?
C'est une question difficile parce que j'ai vraiment compris qu'on avait un chemin de lecture lié à notre temps personnel, à nos expériences, Alors, je ne sais pas si les livres que j'ai découverts récemment et qui ont beaucoup compté pour moi auraient la même résonance plus tôt. Mais peut-être, enfin, je pense à trois livres donc, que je n'avais vraiment pas lus il y a 20 ans, qui font partie de ma vie depuis 5 ans. Je pense à trois livres qui comptent beaucoup, beaucoup pour moi. Il y a les Conversations avec Kafka de Gustav Janusz, que, voilà, qui est devenu un livre très important et qui m'aurait peut-être apporté voilà, quelque chose précédemment. Je pense à L'Irréversible et la Nostalgie de Vladimir Jankélévitch, que je lis vraiment depuis peu. Jankélévitch, je le lis depuis 3-4 ans. Et Natalia Ginzburg, Les mots de la tribu, et notamment, et les petites vertus, je crois que le recueil s'appelle ainsi. Voilà, ces trois livres, c'est vraiment pour un regard sur la vie, sur les êtres, sur les relations humaines, sur le temps, les trois. Les trois sont beaucoup dans la relation, en fait. Qui peut-être, voilà, donc j'en cite trois, j'en cite pas un, mais je ne sais pas si j'aurais été capable de les accueillir de la même manière. Ça reste un mystère.
C'est ça, vous ne faites pas partie des gens qui considèrent qu'il y a certains livres qu'on lit en retard, certains livres à côté desquels on est passé et que vraiment il nous aurait été nécessaire de lire à 18, 20, 25 ou 40 ans.
Alors pas du tout, parce que justement, du fait d'avoir vécu 8 ans hors de France, d'avoir vécu en Israël, je dis très souvent que j'ai une double petite culture et une très grande double inculture. Donc moi, j'ai vraiment conscience. Il y a énormément de classiques. Je peux faire l'aveu, par exemple, de ne pas avoir lu encore Le Rouge et le Noir. Je l'ai en 3 exemplaires, je crois. Mais j'ai un rendez-vous avec ce livre. Alors, voilà, il faut que je puisse vivre au-delà de cet entretien. Mais je sais que j'ai un rendez-vous avec ce livre. Il y a énormément de classiques que je n'ai pas lus. Pendant longtemps, j'en ai eu honte. Et aujourd'hui, plus du tout. Je dis simplement non, je suis désolée, je n'ai pas lu ce livre. Il y a des livres comme Aurélien, d'Aragon, que j'ai lu. Tout le monde en parlait autour de moi. Je l'ai lu relativement tard. Je vais avoir 34 ans, alors que tout le monde l'avait lu plutôt à 20 ans. Enfin, tout le monde autour de moi, encore une fois. Donc, j'ai senti à un moment donné, j'ai vécu une histoire très forte avec Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, qui est un livre qui a également été beaucoup cité autour de moi entre 20 et 30 ans. Et je m'y suis reprise. Enfin, j'ai essayé 5 fois de lire Mrs. Dalloway et je n'arrivais pas à entrer. Je commençais à lire les 2 premières pages et les mots glissaient sur moi, ils n'entraient pas et j'ai pas tant besoin d'habiter un livre qu'un livre m'habite et entre en moi. Et là, vraiment, je dis souvent, c'était comme l'eau sur les plumes d'un canard, ça n'entrait pas. Et je me disais pas, c'est un mauvais livre, ou c'est un livre qui ne m'intéresse pas, ou c'est un livre qui n'est pas pour moi. Je me disais, il y a quelque chose en moi qui résiste, mais je vais essayer. Donc pendant 3 ans, c'est long, hein. Pendant 3 ans, j'ai essayé à plusieurs reprises. Et puis un jour, et peut-être, je crois que ça a été une question de chemin, j'ai lu La cloche de détresse de Sylvia Plath, qui pour le coup est entrée en moi directement, qui m'a beaucoup remué, beaucoup, qui a ouvert énormément d'espace, voilà, des espaces que je n'avais pas. Et là, après ça, je suis retournée vers Mrs. Dalloway et instantanément, j'ai eu une impression de lumière comme ça qui était autour de moi et en moi. Et j'ai lu ce livre très lentement, en 1 mois et demi, parce que je ne voulais pas que ça s'arrête. Et c'était donc la 6e fois que j'ouvrais Mrs. Dalloway.
Bon, c'est passionnant. Déjà, ça nous donne beaucoup de courage. Ça nous demande d'absolument abandonner toutes les hontes de ceux qui n'ont pas lu, entre guillemets, les classiques. Et surtout, ça ouvre plein de pistes, Valérie Zenati, sur l'idée de livres qui eux-mêmes ouvrent à d'autres livres. Je trouve ça très, très beau que la poétesse Sylvia Plath vous ait permis d'aller, d'entrer dans Mrs. Dalloway.
France Culture. Le Book Club. Dans la bibliothèque de Valérie Zenati. Marie Richaud.
Alors, Janusz et Kafka, ça fait partie des livres étapes que vous nous avez cités, qui vont jalonner notre chemin de visite dans la bibliothèque. Je la regarde depuis tout à l'heure. Elle est derrière nous, elle est en angle. Est-ce qu'on prend un petit moment pour la décrire avant de la rejoindre, Valérie Zenati ?
Alors, il faut peut-être préciser qu'il y a, il y a une grande bibliothèque, mais il y a en réalité trois bibliothèques. Et peut-être que celle vers laquelle il faut se tourner, c'est la petite qui est là. Enfin, on peut décrire la grande, tout à fait. Mais là, en fait, c'est mon panthéon. C'est-à-dire que ça, c'est la bibliothèque que j'ai montrée au moins 10 fois depuis que je suis là à mes enfants, en leur disant, s'il m'arrive quoi que ce soit, vous pouvez... Voilà, et vous devez garder ça. Voilà, vous gardez, ça c'est moi, cette bibliothèque c'est... voilà. Et en fait j'en ai trois. Il y a une bibliothèque dans l'entrée de poésie et théâtre. Là c'est le Panthéon. Et puis là c'est ma bibliothèque que j'aime énormément évidemment. Hein. Et je ne cache pas que quand j'ai emménagé ici, j'ai beaucoup moins de place qu'auparavant. J'ai dû mettre à peu près la moitié de ma bibliothèque à la cave, mais qui est très organisée, très saine, il ne faut pas que les gens s'inquiètent. Mais j'ai... beaucoup de livres à la cave aussi.
Alors, plein de questions. cette petite bibliothèque Panthéon, donc elle est petite, mais c'est quand même une, voilà, c'est une étagère assez basse qui doit faire un mètre de haut dans un bois sombre. Elle a été composée quand ? Est-ce qu'elle est, elle est stable ? Et si elle est stable, elle est stable depuis quand ?
Alors, elle a été composée lorsque je suis arrivée ici.
Ah !
Oui. J'avais une organisation tout à fait différente dans mon appartement précédent. J'avais un lit bibliothèque, il y avait des livres partout. Mais j'avais aussi ces deux bibliothèques, les deux grandes, j'avais des piles partout. C'était assez désordonné. La bibliothèque n'était pas classée, elle était classée un peu par éditeur et par époque d'achat de livres. C'était un peu voilà, aléatoire.
Original.
Voilà, original.
Époque d'achat, c'est pas mal.
Époque d'achat. Et éditeur, bon, et il y en avait vraiment partout, il y avait ce lit. Bon, lorsque j'ai emménagé ici, j'ai dû donc faire des choix, et donc elle est très récente. Ce Panthéon est récent, et il s'est imposé à moi parce que je voulais malgré tout ne pas renoncer à... Voilà, il me fallait quand même mes livres autour de moi, même si la moitié se retrouve dans la cave. Donc, j'ai fait des choix assez précis, c'est ce qui m'a demandé le plus de temps. Et j'ai récupéré cette bibliothèque qui était dans la chambre de mon fils et je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre là ? Bah là, je vais mettre les livres qui me suivraient partout. Si je devais partir très vite, je prendrais ça.
Bon, alors donc il faut quand même dire que si vous devez partir très vite, il faut que vous ayez un gros sac à dos, parce que c'est pas non plus une petite bibliothèque de poche, Valérie Zanatti. Il y a 3 étages, dont des étages qui supportent des gros livres. Mais moi, ça m'intrigue la constitution de cette petite bibliothèque Panthéon. Est-ce que vous pouvez nous raconter le moment ? Est-ce que vous aviez des cartons de bouquins ? Il y a eu comme un moment un peu solennel de la constitution de cette bibliothèque que vous appelez Panthéon. Est-ce que c'est au fur et à mesure, en vivant dans cet appartement, que vous l'avez rempli ?
Alors, en fait, comme en littérature, c'est la forme et le fond qui se sont rencontrés. J'avais cette petite bibliothèque avec 3 étagères que je n'étais pas sûre de garder, mais que j'avais prise au cas où. Et je me suis dit, mais là, ça va être la bibliothèque de l'affect. Alors évidemment, hein, puisque si on commence à citer les noms, on va dire qu'il y a des auteurs très importants pour moi, dont un en particulier qui n'est pas là. Mais c'est parce qu'il prenait trop de place, c'est Aaron Appelfeld. Donc j'ai tous les livres d'Aaron Appelfeld en hébreu et tous ceux que j'ai traduits en français au-delà. Donc ça aurait pris la moitié de la bibliothèque. Mais là, ce sont les livres qui, pour le coup, je dirais qu'ils sont lus, sauf À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, que je n'ai pas lu entièrement. Toujours pas. Là aussi, j'ai un rendez-vous. Mais il est là quand même comme vraiment un rendez-vous. Mmh. Donc là, tous les livres sont lus, en fait, dans cette bibliothèque. Tous les livres, peut-être, seront relus. Voilà, je sais pas. C'est vraiment ma bibliothèque.
Bon, y a qui, alors ?
Alors là aussi, ils sont classés par ordre alphabétique. Donc, on commence par Andersen. Je me suis offert les œuvres complètes d'Andersen dans la Pléiade, avec ses romans notamment, qui sont peu connus. Il a un roman qui s'appelle Le violon juif, très étonnant. Donc moi, ça m'a frappée, parce que à la fois, je joue du violon et je suis née dans une famille juive. Et le fait qu'Andersen, qui a beaucoup compté pour moi quand j'étais enfant, et qui a représenté, là aussi, l'ouverture vers des images, vers une mélancolie très poignante et douce. Moi, je pense que Andersen m'a accompagnée enfant, parce que mieux que quiconque, il exprimait les angoisses, la douleur et la beauté en même temps. Et quand j'ai découvert qu'il avait écrit un roman qui s'appelait Le violon juif, bon, il n'est disponible que dans la Pléiade, j'ai acheté ce livre-là. Et puis juste après, on a la correspondance Hannah Arendt et Gershom Scholem. Alors ça, c'est une correspondance extraordinaire.
Entre... Est-ce que je peux aller la chercher? Ça bien fait sûr. Partie des livres bien étapes.
Sûr. Ah oui, oui, oui.
Alors je le lève et je le prends. Donc il jouxte... Il est entre Andersen et Eichmann à Jérusalem.
Oui.
Donc c'est une correspondance qui apparaît au Seuil.
Oui, exactement. Traduite par Olivier Manoni. Et c'est extraordinaire parce que c'est une correspondance dans laquelle ils ont eu la très bonne idée de mettre les notes, parce que c'est une correspondance d'érudits, de deux grands penseurs du XXe siècle, deux grands philosophes, juifs, allemands, tous deux. Donc c'est une correspondance un peu ardue, où il y a des choses qui restent opaques pour la lectrice très peu spécialiste de ces deux écrivains, de ces deux penseurs. Ce qui est très beau, c'est qu'ils représentent tous deux des facettes un peu différentes du judaïsme allemand à un certain moment, puisque Gershom Scholem, qui est allemand, était sioniste et est allé vivre en Israël, et Hannah Arendt, quittant l'Allemagne et passée par Paris, s'est réfugiée aux États-Unis, et elle est restée aux États-Unis. Ce sont deux grands esprits qui ont été très amis et qui ont eu une amitié intellectuelle soutenue, magnifique, avec aussi une amitié tout court. Ils essaient de s'envoyer des colis pendant la guerre. Enfin, il y a quelque chose de très concret. Des colis avec, je sais pas, hein, du chocolat, des choses comme ça. Mais il y a eu une brouille entre eux. La correspondance, enfin, leur amitié et leur correspondance se sont achevées peu de temps après le procès Eichmann dans les années 60, qui a été vraiment une très grande brouille. D'ailleurs, voilà, Eichmann à Jérusalem, c'est le livre juste à côté. Donc il y a le livre de la correspondance et le livre de la rupture. Et ce qui est très beau et qui m'a touchée dans cette correspondance, c'est qu'elle s'articule d'abord autour d'une amitié commune, qui est celle avec Walter Benjamin. Et Walter Benjamin meurt, se suicide juste avant la guerre, et il y a une préoccupation commune de faire vivre son œuvre. Ils s'écrivent, ils essaient de savoir qui détient les droits après-guerre, qui a le copyright, il appelle Benji, on sent une peine immense de la perte de cet ami, un désir de faire vivre son œuvre qui est magnifique. Il y a autre chose qui est présent dans cet échange qui est très très beau, c'est qu'après-guerre, je l'ignorais, Hannah Arendt et Gershom Scholem ont tous les deux fait partie d'une association qui a cherché à sauver les livres juifs ou les livres des bibliothèques juives. C'était pas forcément les livres juifs, mais les nazis avaient pillé les bibliothèques, ils les avaient dispersées et ils ont essayé pendant des années, ils ont donné de leur temps, ils ont fait ça évidemment bénévolement, de leur temps, de leur énergie pour retrouver ces bibliothèques, les classer. Enfin, ils ont fait un travail. On pourrait consacrer une émission à ça, donc je m'arrête là. Ouais. Mais ce qui est très beau, c'est ça. Et la dernière chose que j'ai envie de dire sur cet échange, parce que, voilà, moi, à ma petite mesure, j'ai des amis écrivains, j'ai des amis philosophes, on a des échanges qui sont pas toujours épistolaires. Et là, ce qui m'intéressait, c'est aussi de voir le rapport qu'ils avaient sur leurs œuvres respectives.
Ils les commentent dans les lettres ?
Oui, ils les commentent. Ils s'envoient leurs livres et ils les commentent. Ils s'envoient leurs articles. C'est la moitié de l'échange porte sur ce que l'autre écrit, sur ce que l'autre pense. Et ce qui m'a frappé quand même, c'est que Hannah Arendt était un peu plus jeune que Gershom Scholem, mais c'était un esprit tout aussi grand, au moins. Enfin, il n'y a pas de hiérarchie, c'était deux très grands esprits. Gershom Scholem, quand il lui envoie un de ses livres ou un de ses articles, il est extrêmement sûr de lui. « Cher ami, chère Anna, j'ai l'honneur de vous envoyer cet article qui pointe d'une manière inédite ce qui n'a jamais été... » Et je vous en souhaite bonne lecture. Et elle lui renvoie effectivement une critique très, en général, fouillée, fondée, élogieuse. Et elle, lorsqu'elle lui envoie un texte, « Cher Gerhard », elle appelle Gerhard et pas forcément Gershom, donc par son prénom allemand, « c'est en tremblant que je vous envoie l'article et le livre. » Et elle attend en tremblant son avis. Et il est très souvent sévère avec elle, en lui disant qu'elle se fourvoie, qu'elle se trompe. Mais il ne la méprise pas. Il respecte son intelligence, il respecte sa pensée. Mais il y a quand même quelque chose qui est peut-être aussi, je me dis, du masculin et du féminin à cette époque. Peut-être, hein, c'est une supposition. En tout cas, c'est intéressant. Et peu importe d'ailleurs à quoi c'est dû, j'ai été frappée par la manière dont ils se lisent, se commentent et attendent l'avis de l'autre. Et c'est quelque chose de très intéressant entre écrivains, penseurs, traducteurs, cinéastes.
The only thing which can help us, I think, is really to réfléchir. Réfléchir, cela signifie de toujours penser de manière critique. Et penser de manière critique, cela signifie que chaque pensée sape ce qu'il y a en fait de règles rigides et de convictions générales.
Rigid rules, general convictions, etc. Everything which happens in thinking is
tout ce qui se passe lorsqu'on pense est soumis à un examen critique. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse. Mais ne pas penser est encore plus dangereux.
France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Valérie Zenati. Marie Richeux.
Ça me fait penser, mais peut-être que je vais sauter tout de suite à autre chose. Ça me fait penser à un livre dont vous nous avez parlé, Valérie Zenati, en préparant cette visite de bibliothèque, qui est aussi un livre de relations, mais qui est très très différent, qui est un livre de conversation entre Janusz et Kafka. Est-ce qu'il fait partie du Panthéon ?
Ah oui, totalement.
Alors je remets Arendt et Scholem. Bon, on saute Dostoïevski, on saute Camus, voilà, on reviendra peut-être à Jean Kelevitch qui est au milieu, mais parce que je trouve qu'il y a quand même un écho avec ces conversations-là dont vous pourriez nous parler. Donc, je le remets là.
Les conversations sont là, voilà, conversations
avec
Kafka.
Okay.
C'est ça.
Ah, c'est chez Maurice Nadeau.
Oui. Il a été en rupture de stock le jour où j'ai commencé à l'offrir à tout le monde.
Il l'est, hein.
Et il l'est toujours.
Ah, il l'est toujours, parce que j'ai fait les recherches hier. Et
alors, je lance un appel pour qu'on réédite ce livre. Mais vraiment, je le lance, pardon, je profite.
Allons-y.
Mais alors, en fait, Kafka avait déjà publié un ou deux textes. Il travaillait dans une compagnie d'assurance. Il travaillait spécifiquement sur les accidents de travail. Et il avait un collègue qui s'appelait Monsieur Janusz. Et un jour, ce collègue lui dit, j'ai un fils qui a 17 ans, et il savait qu'il écrivait. Il lui a dit, mon fils écrit aussi, il aimerait bien vous rencontrer. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Ouais. Et Kafka a accepté de rencontrer Gustave Janusz, qui avait, je crois, 17 ou 19 ans. Et ils se sont rencontrés pendant un an et demi. Ils se sont rencontrés, Gustave Janusz lui faisait part de ses lectures.
On est à quelle époque ?
Et donc, on est à ce moment-là très exactement, alors je ne sais pas si voilà, c'est ça, 1920. Voilà, il a 17 ans, Gustave Janusz à ce moment-là. Et alors, j'ai découvert ce livre, justement, lorsque j'ai réussi à entrer dans Kafka. Kafka fait également partie des écrivains vers lesquels je n'ai pu venir que tard. J'ai essayé de le lire à 20 ans. Et c'était très opaque pour moi, je n'y arrivais pas. Je ne comprenais pas le lien entre l'engouement qu'il suscitait et ce que moi j'arrivais à voir dans son œuvre. Et j'y suis retournée beaucoup plus tard, je dirais plutôt vers 45 ans, on va dire. Et là, ou un peu moins, et là pour le coup, Kafka est devenu... D'ailleurs, on pourrait peut-être dire...
Dites ce que vous voulez, c'est que
au-dessus de la bibliothèque, de l'autre
je
grande bibliothèque... Voilà, vous pouvez dire ce que vous voyez.
Bah alors moi, je peux dire ce que je vois, puis vous allez préciser ce que c'est. Donc, c'est une peinture, je ne sais pas, je dirais 70 sur 50 cm, fond noir, un visage, on voit à peine les épaules. C'est un homme qui nous regarde dans les tons plutôt gris, sauf la chevelure qui est presque cuivrée, gris-bleu, voilà. Il a l'air entre eux pensif, triste et profond. Il a une bouche plutôt charnue et il a ou bien un col de chemise blanc ou bien un petit foulard.
Et oui, et c'est un portrait de Franz Kafka fait par un ami qui est à la fois peintre et écrivain, qui s'appelle Gilles Seban, et que j'ai eu envie de lui acheter, qui m'impressionne beaucoup. Enfin, c'est un portrait qui le regard surtout peut même faire peur parfois. J'ai trouvé qu'il était mieux posé sur la bibliothèque que accroché au mur.
Ouais.
Mais il est là, voilà. Il est là, et j'aime qu'il surplombe cette bibliothèque.
Alors, on en lit un petit extrait ?
Oui.
Nous sommes à la page 45. Le livre s'appelle « Conversation avec Kafka », Gustave Yanouche. Texte français, introduction et notes de Bernard Lortolari. Appuyant ses mains contre le bord de la table, il se rejeta en arrière et le corps détendu regarda fixement le plafond. J'imagine qu'on parle de Kafka.
Oui.
Il parle. La fausse liberté, l'apparente liberté, que l'on ne cherche à obtenir que par des dispositions extérieures, est une erreur, un chaos, un désert où rien ne saurait pousser que les herbes amères de l'angoisse et du désespoir. C'est naturel car ce qui possède une valeur réelle et stable est toujours comme un cadeau qui vous est fait de l'intérieur. Tant il est vrai que la croissance de l'homme ne s'effectue pas de bas en haut, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà la condition fondamentale de toute liberté de la vie. Cette liberté n'est pas un climat social produit artificiellement, c'est une attitude obtenue au prix d'une lutte incessante envers soi-même et envers le monde. Une condition qui fait qu'on devient libre. Une condition ? Demandai-je avec méfiance. Oui, dit Kafka. Et il répéta sa définition. Mais c'est tout à fait paradoxal, m'écriai-je. Kafka respira profondément et dit « Oui, c'est effectivement ainsi. L'étincelle qui constitue notre vie consciente doit jaillir d'un pôle à l'autre, par-dessus l'abîme qui sépare les contraires, afin que l'espace d'un éclair nous apercevions le monde. »
Voilà. Tout... C'est beau parce que ce livre, enfin, je vois, enfin, on peut dire qu'il est quand même très corné. Il est hyper corné. Moi, quand je lis une page de Kafka ou de ses conversations, j'ai l'impression d'avoir lu un livre. J'ai l'impression, c'est très dense, qu'il a condensé là, enfin, que son condensé là, à la fois, l'intelligence, le regard, la réflexion, l'image, donc j'ai l'impression d'avoir lu un livre, ce qui est très pratique.
Je le remets ?
Oui.
Je le remets et je flâne un peu là, parce que je sais qu'on doit aller du côté du Nocturne de Jean Kelevitch.
Oui, ah, alors ça c'est très important.
Et je sais qu'on a... Ah voilà, voilà,
je vais expliquer.
Ouais, elle est magnifique. Alors, de quoi s'agit-il ?
Il faudrait dire que donc il s'agit d'un tout petit livre qui s'appelle Le Nocturne de Vladimir Jankélévitch.
C'est l'édition originale.
C'est l'édition originale dédicacée par Jankélévitch à Monsieur Pierre Milo en toute amitié. Ce livre, je me le suis offert à un moment donné où j'avais arrêté de fumer. Quand j'arrête de fumer, je m'offre des cadeaux avec l'argent que j'économise par rapport au paquet de cigarettes. Et donc cette fois-là, puisque j'ai souvent arrêté de fumer, j'ai cherché, j'ai trouvé cet exemplaire. Et pourquoi j'ai voulu l'acheter particulièrement ? Non seulement parce qu'il est signé Jankélévitch, mais lisez l'Achevé d'imprimer.
Achevé d'imprimer, le 5 avril 1942, sur les presses de Monsieur Audin, imprimeur à Lyon, par les soins de Louis Faucon. Pourquoi c'est important, Valérie Zenati ?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, Vladimir Jankélévitch a été expulsé, exclu, radié de l'université française. Il n'enseigne plus, il était professeur, il n'enseigne plus, il est déchu de la nationalité française, il est pourchassé, il est clandestin.
Parce qu'il est juif.
Parce qu'il est juif. Il est doublement chassé, parce qu'il est juif et parce qu'il est né de parents étrangers. Et donc, 42, c'est vraiment une année où voilà, il vit sous un faux nom à Toulouse. Il ne gagne quasiment plus sa vie, de temps en temps, il est dans la résistance, il est résistant, il a de faux papiers, de temps en temps, il donne encore des cours dans des caves à Toulouse et les gens le payent un petit peu pour écouter ce très très grand philosophe du temps, de la vie, de la mort, du courage, de... Voilà, je pourrais également parler des heures de Jankélévitch. Et ce qui me frappe, ce qui me bouleverse quand je découvre cette édition, c'est qu'il publie cette méditation parce qu'il était aussi un très grand musicien et un très grand musicologue et il a écrit aussi sur la musique évidemment. Il publie ce petit livre sur le nocturne, donc le nocturne comme genre musical, cette méditation nocturne en quelque sorte au cœur de la nuit européenne si on peut dire, en tout cas pour les juifs évidemment. Et il publie ça sous son nom à Lyon en 42. Savoir que je tiens entre mes mains voilà un exemplaire qui a été imprimé en 1942. Et surtout, si vous voulez lire peut-être la fin, vous verrez que ce texte tout entier, qui ne fait que une cinquantaine de pages, analyse le nocturne hein, sur le plan musical et philosophique, mais aussi, à la fin, il dit quelque chose certainement de plus vaste.
Il dit quelque chose à la fin de plus vaste, et par curiosité, j'ai été voir sur Internet, on trouve les quelques premières pages. J'ai l'impression que dès le départ, il dit quelque chose de plus vaste sur l'obscurité, sur la nuit. En fait, c'est-à-dire que j'ai comme l'impression que ce prétexte de musicologue, d'analyse d'un genre musical est aussi une possibilité pour lui en tant que philosophe et en tant que penseur, mais presque en tant que poète, je trouve. C'est vraiment ça le biais du texte, quoi, le beau biais du texte, d'avoir une profonde réflexion sur l'obscurité, mais aussi l'obscurité en soi, l'obscurité politique, la nuit en soi-même, la nuit des autres. Moi, ce que je trouve fou, et on va peut-être le sentir dans cette fin de texte, Valérie Zinati, c'est que, comme vous le dites, on est au cœur de la nuit du monde, et singulièrement pour les Juifs en Europe à ce moment-là. Et il réussit dans ce texte à trouver la beauté de la nuit, en fait, la beauté du noir, quoi. C'est vraiment... bon. Donc, je lis la fin, parce que c'était votre recommandation. Oui. Amour est noctambule et incorrigiblement vagabond. La conscience nocturne, à son tour, est bien érotique en cela. Toutes ces nuits sont des nuits blanches. Dès que le soir tombe, elle se livre à l'exaltation onirique, sort prendre son bain de ténèbres et va courir les aventures. Elle traînera, ivre de lune, jusqu'à l'heure de l'aubade, jusqu'à ce sage matin qui ramène, hélas, le mari ou l'épouse, les liens conjugaux et la raison. Rude nuit inconfortable et passionnante. Qu'elle nous accorde le vrai sommeil, qui n'est pas sommeil dans la plume, mais dans la piscine des songes et des ténèbres. Qu'au fantasque, à l'amant et au gueux, elle ne refuse pas cette lueur d'espérance qui s'allume tous les soirs dans la profonde ébène de minuit. Qu'elle apporte la paix à nos cœurs de minuit.
Mais vous aviez raison, c'est de la poésie. C'est de la poésie. Et tout s'éclaire, si j'ose dire, parce qu'on peut vraiment se demander qu'est-ce qu'un juif pourchassé en 1942 peut bien vouloir faire en écrivant un livre sur la musique, sur le nocturne. Et j'ai l'impression, là encore, je suis absolument pas une spécialiste de Jean Kélévitch, mais j'ai l'impression que c'est son acte, peut-être le plus résistant, son acte d'écriture le plus résistant à ce moment-là. Puisqu'il va chercher, comme vous le disiez, la beauté de la nuit dans un moment de ténèbres.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On va rester dans les ténèbres avec un autre moment de votre bibliothèque, Valérie Zinati. C'est un livre qui est édité par les éditions de Minuit. Je crois que c'est le premier... Oui, on passe de minuit à minuit. C'est vrai que c'est le dernier mot du Nocturne de Jean Kalevitch.
Oui, oui, oui. Et je voulais dire qu'en regardant cette bibliothèque, à part un ou deux livres, je crois, Flavius Joseph, qui est un historien du 1er siècle après Jésus-Christ, ou pendant Jésus-Christ, si j'ose dire, à part lui, je crois que toute la bibliothèque, et Andersen, est une bibliothèque du 20e siècle.
Ouais.
Toutes.
Ouais, c'est vrai.
Je me suis fait cette réflexion. Je crois que ça correspond au fait que j'ai commencé à lire et que la lecture est liée pour moi à ma propre inscription dans mon époque. Ce qui ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas à des choses qui ont été écrites avant, évidemment. Mais je crois que j'ai demandé au livre des réponses et peut-être aux questions que je me posais sur mon époque.
Donc on a quitté Minuit et l'amour aussi de Jean Kalevitch pour aller de ce côté de Minuit. Donc c'est les éditions de Minuit. C'est un livre signé par Charlotte Delbault qui s'appelle « Aucun de nous ne reviendra ». Je crois, Valérie Zenati, que lorsque je vous ai posé la question des livres qui pourraient jalonner notre parcours dans la visite de votre bibliothèque, je crois que c'est le premier. C'est possible ?
C'est tout à fait possible parce que ce livre que j'ai lu il y a au moins une dizaine d'années, je crois, un peu plus. Alors c'est étrange, lorsque je l'ouvre, je vois que le copyright date de 1970, donc c'est l'année de ma naissance. Il a été publié lorsque je suis née. J'ai cité Charlotte Delbault parce que, de manière plus vaste, ça raconte mon rapport au livre important pour moi. Un livre qui est important pour moi, c'est un livre qui agit en deux temps. Il agit au moment de la lecture et d'une certaine manière, je sais déjà qu'il va continuer d'agir ensuite. Parce qu'il y a des livres que je lis par plaisir, par obligation, par amitié, par intérêt ou autre, et j'y prends plaisir et puis je sais qu'il ne va pas y avoir de traces particulières. Ce livre-là, comme d'autres aussi, mais avec une force vraiment très très rare, il fait partie des livres où j'ai su dès la première phrase que j'entendais une voix que je n'avais jamais entendue et que j'avais besoin d'entendre et que j'entendrai toujours. Et Charlotte Delbault, qui était une résistante communiste, qui a été la secrétaire de Louis Jouvet et qui a été déportée à Auschwitz, et elle a écrit cette trilogie qui est paru en 70 et dont on a peu parlé, dont on parle beaucoup plus depuis quelques années. Pendant longtemps, elle a été oubliée. Et pour moi, elle est allée à un endroit où personne n'était allé, c'est-à-dire qu'elle a réussi à faire dire à la langue française ce que la langue française n'avait jamais dit. Ça me rappelle une phrase de Zweig à laquelle je tiens beaucoup. Zweig est aussi dans le Panthéon.
Ouais, c'est
dernier, hein. Oui, oui, oui. Quand Zweig parle de traduction, il dit que tout écrivain devrait traduire parce qu'il faut avoir torturé sa propre langue pour pouvoir écrire. C'est-à-dire, il considère que la traduction est une sorte de torture de la langue. Alors, le mot torture fait un peu peur, mais c'est vrai qu'il y a quand même une manière de malaxer la langue pour arriver à lui faire dire ce qu'elle ne dit pas spontanément dans sa propre langue. Et pour moi, Charlotte Delbault, ce qu'elle a réussi à faire avec ses livres, c'est qu'elle a, je ne sais pas comment, elle a fait dire aux Français ce qu'ils n'avaient pas dit et ce qu'il ne pouvait presque ne pas dire. Elle a trouvé une langue qui réunissait, comme Kafka disait tout à l'heure, hein, cet abîme des contraires, il faut enjamber l'abîme des contraires. Elle a trouvé la langue, elle a croisé des chemins entre l'effroi et la poésie et la beauté. Et pour moi, si vous voulez lire la première page du premier volume de la trilogie, on comprend qu'elle fait quelque chose qui non seulement n'avait jamais été fait, mais qui était presque impossible à faire.
Donc sur la quatrième de couverture, il est dit « Charlotte Delbault était une des 230 femmes qui, dans le convoi du 24 janvier, partirent en 1943 de Compiègne pour Auschwitz. Je » Je lis aussi ce petit exergue. « Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ce que j'ai écrit soit vrai. Je suis sûre que c'est véridique. » Rue de l'arrivée, rue du départ. Il y a les gens qui arrivent. Ils cherchent des yeux dans la foule de ceux qui attendent, ceux qui les attendent. Ils les embrassent, et ils disent qu'ils sont fatigués du voyage. Il y a les gens qui partent. Ils disent au revoir à ceux qui ne partent pas et ils embrassent les enfants. Il y a une rue pour les gens qui arrivent et une rue pour les gens qui partent. Il y a un café qui s'appelle « À l'arrivée » et un café qui s'appelle « Au départ ». Il y a des gens qui arrivent et il y a des gens qui partent. Mais il est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui partent. Une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés, où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. C'est la plus grande gare du monde. C'est à cette gare qu'ils arrivent, qu'ils viennent de n'importe où. Ils y arrivent après des jours et après des nuits, ayant traversé des pays entiers. Ils y arrivent avec les enfants, même les petits, qui ne devaient pas être du voyage. Ils ont emporté les enfants parce qu'on ne se sépare pas des enfants pour ce voyage-là. Ceux qui en avaient ont emporté de l'or parce qu'ils croyaient que l'or pouvait être utile. Tous ont emporté ce qu'ils avaient de plus cher parce qu'il ne faut pas laisser ce qui est cher quand on part au loin. Tous ont emporté leur vie. C'était surtout sa vie qu'il fallait prendre avec soi. Et quand ils arrivent, ils croient qu'ils sont arrivés en enfer. Possible. Pourtant, ils n'y croyaient pas. Ils ignoraient qu'on prit le train pour l'enfer, mais puisqu'ils y sont, ils s'arment et se sentent prêts à l'affronter. Avec les enfants, les femmes, les vieux parents, avec les souvenirs de famille et les papiers de famille. Ils ne savent pas qu'à cette gare-là, on n'arrive pas. Ils attendent le pire, ils n'attendent pas l'inconcevable. Et quand on leur crie de se ranger par cinq, hommes d'un côté, femmes et enfants de l'autre, dans une langue qu'ils ne comprennent pas, ils comprennent au coup de bâton et se rangent par cinq puisqu'ils s'attendent à tout. Les mères gardent les enfants contre elles. Elles tremblaient qu'ils leur fussent enlevés. Parce que les enfants ont faim et soif et sont chiffonnés de l'insomnie à travers tant de pays. Enfin, on arrive. Elles vont pouvoir s'occuper d'eux. Et quand on leur crie de laisser les paquets, les édredons et les souvenirs sur le quai, ils leur laissent parce qu'ils doivent s'attendre à tout et ne veulent s'étonner de rien. Ils disent « on verra bien ». Ils ont déjà tant vu et ils sont fatigués du voyage. La gare n'est pas une gare. C'est la fin d'un rail. Ils regardent et ils sont éprouvés par la désolation autour d'eux. Le matin, la brume leur cache les marais. Le soir, les réflecteurs éclairent les barbelés blancs dans une netteté de photographie astrale. Ils croient que c'est là qu'on les mène et ils sont effrayés.
On ne peut rien dire. Après, on peut tout lire.
On peut tout lire.
On peut tout lire. On doit tout lire, je pense.
On doit tout lire. En fait, je dois vous dire que quand j'ai lu le passage que vous m'avez envoyé, comme étant un des passages que vous vouliez faire entendre de votre bibliothèque, Valérie Zenati, je butais. Et encore là, en lisant, et il y a quelque chose. Pourtant, il n'y a pas de versification complètement incroyable. Il n'y a pas de retour à la ligne qui soit complètement étonnant. Mais il y a ce que vous disiez tout à l'heure et à quoi je ne m'attendais pas, c'est-à-dire, et ce qu'elle dit elle aussi, il y a de l'inconcevable dans la langue. Et c'est vraiment impressionnant en fait. C'est qu'il y a dans l'écriture la transmission de l'inconcevable.
Exactement. C'est ça, cette sensation que j'ai eue était extrêmement physique. Elle n'était pas du tout... Et c'est pour ça que vous butez, je pense, c'est physique. À un moment donné, la lecture est aussi quelque chose de physique. Et à mon avis, pas uniquement lorsqu'elle a lu à haute voix. Puisque lorsqu'on lit, même si on lit silencieusement, on ne lit jamais silencieusement. On entend une voix. Et donc, cette sensation physique que j'ai eue, c'était qu'elle avait vraiment, là je disais, torturé la langue. Elle agit sur le français d'une manière qui rend compte, effectivement, d'emblée de cet inconcevable. Et c'est présent dans le sens des mots, mais probablement aussi dans la façon qu'elle a eu d'agencer les mots, les phrases, de choisir les répétitions, cette complémentarité, ces oppositions entre le départ et l'arrivée. Et c'est si simple. Je pense que c'est un texte qu'il m'arrive de lire quand je rencontre des classes de quatrième, par exemple. Ils me disent pas, on comprend pas les mots. La langue est très accessible. Et ce qu'elle fait de la langue française, encore une fois, ça reste à la fois une sidération et une forme aussi de reconnaissance envers elle, de me dire quelqu'un comme ça a existé et a pu écrire ça. Et je le disais, bon, je ne lis pas que des choses qui ont à voir avec le XXe siècle et qui tournent autour de la nuit du XXe siècle ou d'une des nuits du XXe siècle. Mais il est vrai que ça correspond aussi à des choses qui me terrifiaient enfant. Et la littérature a été un moyen aussi d'approcher ça autrement, de trouver la beauté là où je pensais qu'elle ne pouvait pas se trouver. Voilà, il y a d'autres auteurs dans la aussi, à la fois dans le Panthéon et ailleurs.
On laisse le Panthéon, on fait juste quelques pas vers la grande bibliothèque avant de se dire au revoir.
Donc, en fait, ce sont deux bibliothèques qui ont été fabriquées sur mesure il y a quelques années de cela par un artisan. Elles sont belles, elles sont pas toujours pratiques parce que la hauteur des étagères varie. Donc le côté alphabétique parce que parfois les livres sont trop hauts pour entrer. Mais j'ai donc choisi de classer par ordre alphabétique d'abord les romans et nouvelles. Donc on peut dire que le premier, alors étonnamment, c'est plutôt un scénario qui est là de Robert Altman, paru aux éditions de l'Olivier. C'est le scénario de Shortcuts, qui est le premier livre qu'on trouve là. Et donc ensuite, on a des auteurs français, étrangers. Voilà, il n'y a pas de distinction entre littérature française ou littérature traduite. Et puis ça se poursuit sur la deuxième bibliothèque, où là, après la lettre Z, alors je suis désolée, je suis présente à la lettre Z, mais voilà, parce que je savais...
Quand même, quand on écrit des livres.
Oui, voilà, mais je ne savais pas très bien où ranger mes livres, donc j'ai quelques-uns de mes livres ici. Pas tous, mais voilà, mais quelques-uns. Mais j'aime bien, parce qu'il y a mes livres traduits aussi. Enfin voilà, Jacob, dans différentes éditions. Et ensuite, j'ai les essais. Alors, il n'y en a pas beaucoup ici, mais ils sont très importants pour moi. Donc là, c'est la partie essais. Et au bas des bibliothèques, on a un peu de tout. On a des beaux livres, on a les livres en hébreu, on a la BD, on a les livres qui sont tout simplement trop grands. On a, je crois, le livre le plus ancien, finalement, de ma bibliothèque d'adultes, qui est là. C'est une concordance biblique. Ça, il faudrait aussi que je l'emmène.
Énorme.
Voilà, c'est énorme. Donc, c'est un très gros livre en hébreu qui...
Les
concordances bibliques existent depuis des siècles et des siècles. On n'a pas attendu Internet et l'intelligence artificielle, il y a des hommes, des êtres humains qui se sont attelés à répertorier, à référencer la localisation de tous les mots bibliques. C'est-à-dire que si vous me demandez dans quel texte biblique on trouve le mot kéves, mouton,
préciser que c'est complètement
je l'ai ouvert. Donc là, on a kéves et s'en suivent toutes les occurrences du mot kéves dans la Bible.
Incroyable.
C'est-à-dire que vous allez savoir, vous allez pouvoir trouver tous les textes où ce mot-là apparaît. Et cette concordance permet donc d'établir, de faire une sorte d'intertextualité, de comprendre parfois il y a des mots qui sont difficiles à comprendre, qui se trouvent que dans deux ou trois occurrences bibliques. Il y a même des apaches qu'on ne trouve qu'une seule fois. Ça permet de trouver le contexte et peut-être à partir du contexte de comprendre le mot. Et donc, c'est un outil de travail que j'ai depuis mes années d'étudiante. Oui, c'est le premier. Je l'ai acheté en France. J'avais 21 ans.
Il est magnifique. Sa couverture, elle est...
Elle est étonnante.
Oui, elle est très belle. Et surtout, c'est un bel orange années 70 et un super fuchsia.
Oui.
Très bel alliage de couleurs.
Oui, il est très, très beau. Donc ça, c'est, je crois, le plus ancien que j'ai ici, à part des livres d'enfants que j'ai dû rapporter. Donc voilà, les étagères supérieures, c'est vraiment roman et essais. Et les étagères inférieures, on a du beau livre, de l'hébreu, tout mais Aaron Appelfeld en hébreu, enfin tous sur deux niveaux parce que il a écrit 45 livres en tout.
Un peu de psychanalyse quand même, hein. Winnicott.
Alors il y en a un peu, il pourrait y en avoir plus, mais parfois, je les prête et ils ne reviennent pas.
Ah oui, vous êtes de l'école je prête mes livres.
Je prête mes livres et ils ne reviennent pas. Et la plupart du temps, je dis, quand je sais que je peux le retrouver, je dis, de toute façon, garde-le. C'est-à-dire, j'y renonce au moment où je le prête et je le rachète ensuite. Voilà. Donc il y a mais il y a des Ferenzi que
j'ai
prêté qui ne sont pas revenus.
Mais il y en a au moins un parce que je l'ai croisé. Il y a Susan Sontag.
Oui.
Gertrude Stein.
Voilà.
Stendhal avec qui vous avez rendez-vous.
Oui, voilà, il est là, mais il est aussi ailleurs. Enfin, les deux autres exemplaires doivent être à la cave. J'ai le rouge et le noir en trois exemplaires.
Pour quelqu'un qui l'a pas lu, c'est pas mal.
Quelqu'un qui l'a pas lu, c'est beaucoup.
Est-ce qu'on fait juste un dernier petit coucou à la toute petite bibliothèque qui est dans l'entrée?
Ah oui, bien sûr.
Alors,
donc là, ça s'est imposé aussi, étant donné que cette bibliothèque est encastrée dans le mur et préexistait à mon arrivée ici. Et donc, j'ai choisi d'y mettre la poésie et un peu le théâtre. Bon, la poésie, c'est vaste parce que j'ai mis aussi la Bible ici, finalement. J'ai rangé ma Bible ici parce que je me suis dit que c'était quand même un texte très poétique. Le dernier livre entré, c'est le quarto de Desnos, que quelqu'un m'a prêté hier. Voilà. Et sinon, en ce moment, il y a aussi, j'ai beaucoup lu pour plein de raisons, Leonard Cohen. Qui a été quand même poète et romancier avant, et connu comme poète et romancier avant d'être chanteur. Et puis voilà, vous pouvez regarder.
Est-ce que je me dis que un mot de la fin, c'est un dernier livre que je sors? Et si c'est un dernier livre que je sors, il faut que je choisisse, mais il y en a un qui me fait de l'œil.
Lequel?
J'avoue que j'aurais bien sorti un Leonard Cohen.
Ah oui, très bien.
Mais pourtant, je vais aller vers une femme que j'ai plusieurs fois rencontrée, toujours avec énormément de plaisir, qui était peintre et poète, c'est Etel Adnan.
Oui. Alors, Etel Adnan, c'est une découverte récente et c'est aussi un cadeau qu'on m'a fait. Voilà, j'ai plusieurs livres d'Etel Adnan. Je ne les ai pas tous lus encore, mais Prémonition est un poème qu'il faut lire d'une traite, qui est un poème en prose. Et qui, étrangement d'ailleurs, si vous voulez lire les derniers...
qui, elle aussi, se termine par « Ainsi, le temps n'est pas un phénomène relatif à la pensée, mais l'élément fondamental de la vie. Il y a des nuits où ces ruptures donnent lieu à des pluies diluviennes, nuit de la révélation de la nuit. » Merci beaucoup, Valérie Zanatti.
Merci à vous.
I went down to the place where I knew she lay waiting, under the marble and the snow. I said, Mother, I'm frightened, the thunder and the lightning, I'll never come through this alone. She said, I'll be with you, my shawl wrapped around you, my hand on your head when you go. And the night came on, it was very calm. I wanted the night to go on and on, but she said, go back to the world.
Dans cet épisode, vous avez entendu la voix de la philosophe Hannah Arendt tirée d'un entretien datant de 1983 avec Roger Herrera. Vous pourrez retrouver cette référence sur franceculture.fr ainsi que la liste des textes évoqués par Valérie Zanatti. Pour réécouter toutes les bibliothèques du Book Club, rendez-vous par exemple sur l'application Radio France. Au son, à l'extérieur, c'était Martin Troadec, au mixage Jean-Guilain Meige et à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Alexandre Alaibegovic, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Oriane Delacroix, Didier Pinault, Mathilde Wagman et Léa Weissgruss.
Not to the young. We were locked in this kitchen. I took to religion, and I wondered how long she would stay. I needed so much to have nothing to touch. I've always been greedy that way. But my son and my daughter climbed out of the water, crying, Papa, you promised to play. And they lead me away to the great surprise. It's Papa, don't peek, Papa, cover your eyes. And they hide. They
they hide in the world. Now I look for her always, I'm lost in this calling, I'm tied to the threads of some prayer, saying when will she summon me, when will she come to me, what must I do to prepare? When she bends to my longing like a willow, like a fountain, she stands in the luminous air. And the night comes on, it's very calm. I lie in her arms, she says when I'm gone, I'll be yours. Yours for a song. Now the crickets are singing, the vesper bell's ringing, the cat's curled asleep in his chair. I'll go down to Bill's bar, I can make it that far, and I'll see if my friends are still there. Yes, and here's to the few who forgive what you do, and the fewer who don't even care. And the night comes on, it's very calm. I want to cross over, I want to go home. But she said, go back to the world.